بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحبه وكل من والاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Toujours dans la science du Coran. On va parler aujourd'hui sur le fait que le Coran al-Karim, il a été révélé contrairement aux livres qui ont précédé le Coran al-Karim. Les révélations qui ont précédé le Coran al-Karim, c'était des révélations qui descendaient, qui étaient révélées complètement. Mais le Coran al-Karim, il a été révélé selon les circonstances. Alors, en arabe, on appelle ça « munajjaman », bi ma'na mufarraqan. Mufarraqan. Alors, bien sûr, on trouvera des versets coraniques que le Coran il a été révélé. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le verset nous dit le mois de Ramadan où le Coran a été révélé. إن أنزلناه في ليلة القدر. C'est-à-dire dans la nuit du destin, le Coran il a été révélé. Bien sûr, il a été révélé le Coran al-Karim dans cette nuit. Il est resté dans le ciel de la vie d'ici-bas, parce qu'on a 7 cieux. Mais ensuite, au fur et à mesure des circonstances, l'ange Gabriel fait révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam les versets concernant les circonstances de chaque situation. Alors, le Coran, il a été, on va dire, il est passé par 3 étapes. Les étapes de Tanazzul al-Awwal, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, Nuzuluhu ila al-Lawh al-Mahfouz. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran sur la table bien gardée. Et Allah nous dit dans le Coran Karim, bal huwa Qur'anul Majid fi Lawh al-Mahfouz. C'est un Coran Majid fi Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire dans la table bien gardée. D'accord, donc tout le Coran, il est la première descente Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre dans la table bien gardée. Alors, la table bien gardée, on sait très bien que c'est écrit sur la table bien gardée tout ce qui va se passer dans cette vie d'ici-bas. D'accord ? L'imam Abu Hayyan, Andalousi, un des grands savants du tafsir, il a un livre qui s'appelle Al-Bahr al-Muhit. Bahr al-Muhit, c'est-à-dire la mer des océans. D'accord ? Bahr al-Muhit, par son tafsir. Il dit, Al-Lawh al-Mahfouz, huwa alladhi fihi jami'u al-ashya. La table bien gardée, c'est là où il y a toutes les choses. Toutes choses allées dans Al-Lawh al-Mahfouz. La deuxième descente du Coran, donc première descente, c'est Allah Azza wa Jal, il a descendu le Coran dans la table bien gardée. La deuxième descente du Coran, de la table bien gardée, au ciel de cette vie d'ici-bas. Sama ad-dunya. Troisième descente, c'est le faire descendre de façon répartie sur 23 années, selon les circonstances, sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a des ulama, ils disent, c'est pas que le Coran, il a été révélé pendant le mois de Ramadan, complètement, mais Allah a commencé à ordonner de le descendre à partir de l'Eid al-Qadr, à partir de Ramadan, à partir de la nuit du destin.
C'est-à-dire de la table bien gardée au siège de cette vie, c'est ça ?
C'est ça. Alors, l'une des asrars, des défis, des ijaz, des défis, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran Karim à la... complètement au ciel de Beit al-Izza, au ciel de la terre, ou bien pas de la terre, de cette vie d'ici-bas, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour avertir les anges et tous ceux qui, c'est-à-dire toutes les créatures, les anges et les prophètes, que c'est le dernier livre qui sera révélé. Deuxièmement, pour montrer qu'il va y avoir, ça fait partie aussi de, ça fait partie aussi des miracles, pour montrer que, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à l'avance ce qui va se passer. Puisque tout le Coran, il a été révélé, il est dans le ciel, le premier ciel, donc il porte tous les versets. Puisqu'il porte tous les versets, et ces versets traitent des questions qui vont se passer. C'est-à-dire pour nous montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui va se passer. Donc les versets des circonstances qui vont se passer sont déjà prêts. Et ces versets-là, le Coran, il va descendre selon les circonstances. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va le remettre dans l'ordre des versets et l'ordre des sourates. À chaque fois que, parce qu'il recevait 5 sourates, 6 sourates, 5 versets, 10 versets. Et il dit aux sahaba, ces versets-là, mettez-les dans telle sourate. Ces versets-là sont avant ces versets-là. Ces versets-là sont après ces versets-là. Ça fait partie des miracles. Du défi que... I'jaz, mu'ajiz. Donc on a dit le Coran Karim, il a continué à descendre sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 années, depuis que le prophète il a 40 ans. Depuis qu'il a reçu la révélation, il avait 40 ans. D'accord. Jusqu'à ce qu'il a rejoint son Seigneur. Non. Alors, il y a un verset dans Sourate Al-Furqan, verset 32-33, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ نُلُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا » Donc, dans ce verset-là de Sourate Al-Furqan, verset 32-33, Allah dit, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا Quant aux mécréants, ceux qui ne croient pas, ils ont dit, là où l'un nous est là, ici, pourquoi ce Coran-là n'est pas descendu en un seul bloc, directement? كَذَلِكَ Allah dit, ici, كَذَلِكَ, ça ne veut pas dire, et aussi, mais réponds-leur, لِنُثَبِّتَ بِيْفُؤَدَكَ Pour que ton cœur soit apaisé, soit soutenu. Parce que si on le descend complètement, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des révélations au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les circonstances pour le soutenir. Sauf qu'il y a un événement, il y a les versets qui correspondent à cet événement-là pour le soutenir dans ces situations. Waratalnahu tartila, pour que mais il soit facile pour sa récitation. Voilà, il y a tout la kabim ifnin. À chaque fois qu'ils essayent de t'apporter quelque chose, on le rapportera à la vérité absolue, tangente, qui remet en cause ce qu'ils disent. À chaque fois qu'ils essayent d'embrouiller les pistes, à chaque fois qu'ils essayent d'apporter quelque chose de faux, le Coran al-Karim vient remettre en cause. C'est pour ça qu'il est venu, on va dire, par partie. Non. Taïb. Je ne rentrerai pas dans les détails de... Donc, on a d'autres versets qui parlent de cela. وَكُلُّ النَّقَصُ عَلَيْكَ مِنْ بَاءِ الرُّسُلْ مَنْ نُثْبِتُ بِفُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ لِذِكْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلِ الَّذِينَ يَؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِهِمْ إِنَّا عَامِلُونَ. Donc, on a plein de versets qui parlent de l'apaisement, de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette tâche qui n'est pas facile. C'est une tâche très difficile. Il a affaire à des gens qui ne croient pas. Il a affaire à des gens qui vont défier. Donc, il est là pour répondre à toutes les questions, à tous leurs défis, selon les circonstances. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ne t'inquiète pas, nous allons te soutenir. Al-Karim, il est là pour être en ta faveur. Ah. Donc, on a plusieurs circonstances où les kofars sont venus parler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a le cas où ils sont venus lui dire, voilà, comment Allah, subhanahu wa ta'ala, tu dis Dieu qu'il y aura une résurrection. Ils lui ont ramené un os, ils l'ont effrité devant lui. Cette poussière-là, comment elle peut devenir le Coran al-Karim? Donc, on a la réponse. Donc, c'est à chaque fois qu'il y a un événement, on a une réponse. On a... صورت ياسين أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Donc là le Coran refute complètement cette question, cette interrogation du kuffar en lui disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment cet os peut revenir. Et là, on a la réponse. Donc, le fait qu'il y ait des réponses selon les circonstances, il y a une sagesse derrière cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, vous posez la question comment cet os va revenir, mais vous ne posez pas de question comment il est venu. D'accord? Celui qui va la refaire vivre, enfin revenir, c'est celui qui lui a donné vie la première fois. Et on a plusieurs fois où... soit les croyants chrétiens, juifs ou d'autres, viennent lui poser la question sur l'âme, sur de ce qu'il... C'est quoi la zakat, c'est quoi ceci, cela. Donc, on a des versets selon les circonstances. Non. Alors, maintenant, on va passer... quels sont les premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, on sait tous que Sourate Al-Alaq, les premiers versets qui ont été révélés, « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq »« Lis au nom de ton Seigneur celui qui a créé »« Khalaq al-insana min alaq » Il a créé l'homme « min alaqa » Alaqa, c'est-à-dire les premiers prémices de la formation du fœtus. « Iqra wa rabbuka akram » Lis au nom de ton Seigneur celui qui est « akram »« Undana karim »« Undana akram » C'est-à-dire, Akram, il est beaucoup plus généreux que le Karim. D'accord ? Alladhi 'allama bil qalam, celui qui a appris aux gens la science à partir de la plume. D'accord ? Par l'écriture. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ça, c'est le premier verset que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez très très bien l'histoire, quand l'ange Gabriel... est venu le voir, il était Ferrar Hira, Il a dit, lis. Iqra. Il a dit, moi, je ne lis pas. Je sais ni lire ni écrire. Iqra. Il a dit, je ne lis pas. Ensuite, il a dit, Iqra bismi rabbik. Lis en nom de ton Seigneur. Par ton Seigneur. Lis ce que ton Seigneur va te donner. Tu auras de la science à travers ton Seigneur. La lecture viendra à travers ton Seigneur. Le savoir te viendra à travers ton Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Non. L'alaq, le premier. Alors, quel est... Ça, c'est le premier... Verset qui a été révélé. Alors, c'est quoi le dernier verset qui a été révélé? Donc, il y a divergence un peu entre les ulama. C'est le verset de sourate, de la sourate de la vache, verset numéro 281 de la sourate de la vache. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Donc c'est le dernier verset qui a été révélé dans le Coran Karim. Vous imaginez que ce n'est pas le dernier verset, ce n'est pas celui qui est dans le dernier de la sourate. Donc c'est le dernier verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va leur dire aux sahaba, quand il reçoit un verset, il lui dit celui-là, mettez-le derrière ce verset-là. D'accord. Donc il est derrière, il se classe. Dans le 281 de sourate al-Baqara. وَاتَّقُوا يَوْمًا craignez un jour. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِي إِلَى اللَّهِ craignez le jour où vous allez tous revenir vers Allah. ثُمَّ تُوَفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ chaque âme terminera ce qui lui a été destiné, c'est-à-dire de consommer, etc. وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ et ce jour-là, il n'y aura pas d'injustice. Donc ce verset-là parle de يوم القيامة. Donc c'est l'avis majoritaire, hein, il y a d'autres avis qui disent c'est d'autres versets, mais c'est ce verset-là qui a été révélé. Non. Alors, bien sûr, c'est le dernier verset qui rappelle ces derniers versets, il rappelle le jugement dernier, etc. La première sourate qui a été révélée complète, sourate al-Fatiha. Donc c'est la première sourate qui a été révélée complète. Première sourate qui a parlé de l'alcool n'a pas interdit directement l'alcool. C'est le sourate al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'était le début de l'islam, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. On te pose la question sur l'alcool et les jeux de hasard, dis-leur qu'il y a beaucoup de mal, bien qu'il y a un peu de bien c'est-à-dire un peu de bien, c'est le fait que la personne elle gagne de l'argent, le fait qu'elle, c'est ça le mais son mal, il est immense, d'accord. Ah. Ensuite, on a dans les questions juridiques, à chaque fois on a un sujet traité. Vous avez un verset qui clôture, on va dire, un ensemble de versets traitant un sujet. On a toujours un verset qui sera le début du sujet où il parlera sur ce sujet-là. Et on a le dernier verset qui traitera le sujet, peut-être dans la même sourate, peut-être dans une autre sourate. Parce que les sujets traités pour le Coran al-Karim ne sont pas tous traités dans... Vous avez, par exemple, on va parler d'héritage, ou bien on va parler de mariage ou de divorce, ou tous les autres sujets, hein, d'histoire, etc. Vous allez trouver une partie, elle est traitée dans une sourate, l'autre partie, elle est traitée dans une deuxième et l'autre dans une troisième. D'accord ? Donc c'est pour ça que le savant qui fait le tafsir, il connaît le Coran al-Karim, il sait que le sujet, il est traité dans 3-4 sourates. D'accord ? Et des fois, c'est le verset de telle sourate qui explique le verset de telle sourate, etc. C'est pour ça qu'il faut que le savant connaisse toutes ces sourates et tout le tafsir de tous ces versets. Non. Alors, dernière sourate qui a été révélée complète, donc on a dit la première sourate qui a été révélée complète, c'est le Fatiha. Et la dernière sourate complète, c'est « Idha ja'a nasrullah » que tout le monde connaît. « Idha ja'a nasrullah » ou « al-fatih » hein? Pourquoi cette question de savoir qui a été révélé, qui est révélé avant l'autre? Pour les questions d'abroger, abrogeant. C'est-à-dire celui qui vient après, il abroge celui qui est avant. C'est-à-dire pour le savant du tafsir, pour qu'il sache, il n'y aura pas un verset abrogé qui va venir avant l'autre. Quel est l'intérêt? Regardez le verset de l'alcool. « Wayus alunaka anil khamr » Et on te pose la question sur l'alcool. Dis-leur. Qul fihima ithmun kabir wa ma nafi'u linnas. Il y a un grand mal. Ensuite, on a un qui a guidé la prière et étant ivre, il a inversé l'aïa. On dit que les sahaba, ils ont dit, tiens, il y a une révélation. Le Coran al-Karim. La taqrabu salata wa antum sukara. Ne vous approchez pas, ne faites pas la prière étant buveur d'alcool, quand vous buvez de l'alcool. Hein. Ensuite, ils se sont posé la question. Maintenant, Allah nous dit, il n'est pas bien. Allah nous dit, ne faites pas la prière. Il est bien, il est bien, il n'est pas bien. Il est haram ou halal. C'est quoi? Ah, il y a une révélation qui va venir. Ya ayyuhal ladhina amanu, innama al-khamru, wal-maisiru, wal-ansabu, wal-azlamu, rijsun min amali shaytan, fashtanibu. C'est un mal qui vient de shaytan, donc éloignez-vous. Donc là, c'est le troisième verset qui traite le sujet de l'alcool, où c'est tranché, ce verset-là, il va abroger les autres. Donc c'est le dernier parmi... Donc vous avez un sujet où l'alcool, il a été, interdit progressivement. Donc l'une des choses bénéfiques de l'étude de la chronologie des versets, c'est que celui qui fait le tafsir, il saura quel est le verset abrogé, abrogeant. D'accord. Aussi, de connaître l'histoire de la jurisprudence et comment le Coran al-Karim, il a traité une telle question d'une façon progressive. Oui. Comment? La dernière sourate qui a été révélée complète. Idha ja'a nasrullah, sourate al-Fath. Idha ja'a nasrullah wa al-Fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaban. Alors, on va parler de la chronologie des sourates. Des versets et des sourates. Chronologie, tartib. Le mot aya, linguistiquement parlant, ça veut dire le signe. Un signe. mais c'est-à-dire la définition de ayah, قال تعالى إن آية ملكه أن يأتيك التابوت. D'accord. L'un des signes de ceci, c'est cela. Le signe ayatu kada, d'accord. Mais quant à le Coran al-Karim, dans le sens du Coran, c'est du Coran qui est fait, c'est-à-dire composé de phrases. Composé de phrases, c'est du Coran composé de phrases. Il a un début, il a une fin et il a un sens. On ne peut pas dire d'un verset s'il n'a pas de sens. C'est-à-dire que si tu lis deux, trois mots sans terminer, ce n'est pas un verset. Qul huwa Allahu ahad. Si tu dis qul huwa Allahu, ce n'est pas un verset. Dis qu'Allah il est l'unique. Oui. Si tu dis qu'Allah, ce n'est pas un verset. Du coup, on ne peut pas faire la prière avec la moitié d'un verset. Dans la prière, le minimum, c'est un verset. Si je dis Allahu Akbar, je lis la Fatiha et je lis un seul verset. Je ne lis pas toute la sourate. Je dis juste Qul Huwallahu Ahad. C'est valable. Mais si je dis Qul Huwallahu, j'ai ramené la moitié d'un verset, ce n'est pas valable. Parce qu'il n'y a pas de sens. Vous avez compris ? Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné le nom Aya au verset? D'accord? Vous pouvez donner, c'est-à-dire pourquoi ces petits fragments, on les appelle Aya. Signe. Premièrement, comme signe de la véracité, c'est un signe, alama, de la véracité de celui qui parle, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autre part, c'est une preuve, c'est un signe de défi. C'est un signe de vérité et un signe de défi. Alors, ça c'est pour le ayah. Et pour surah, on a plusieurs définitions linguistiques. Sura, en arabe,
pourquoi on a traduit par verset et pas par signe alors?
Les traducteurs, peut-être par extrapolation des versets, des évangiles et des textes bibliques, etc. On dit aussi verset. C'est vrai ou non? On dit, ce sont c'est pas les musulmans qui ont fait les premières traductions. On suit. On est des suivistes, des suiveurs. Ouais. Peut-être parce que le mot... oui, c'est vrai. Alors, une des définitions linguistiques du mot surah, qui veut dire le degré. Le degré élevé de la chose, hein, un degré élevé. C'est-à-dire, sura, c'est-à-dire, martaba aliya, c'est-à-dire, c'est une station élevée, d'accord, linguistiquement. Mais terminologiquement parlant, en sens du Coran, c'est un ensemble, la sourate, c'est un ensemble de versets qui a bien sûr un début, une fin, et le minimum, c'est trois versets. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Minimum de sourate, il y a trois versets. Alors, on rapporte aussi que la définition de sourd, c'est-à-dire, c'est comme si la sourate, elle entoure les versets. C'est un ensemble de versets. Elle englobe. Alors, plusieurs sagesses, pourquoi le Coran, c'est des sourates, c'est des versets. On a plusieurs fawaïd, c'est-à-dire plusieurs intérêts. Alors, parmi ces choses bénéfiques, c'est que, parce que dans une sourate, vous allez trouver plusieurs versets, vous allez trouver plusieurs sujets différents qui ne sont pas une seule chose. D'accord ? Ça parle d'une chose, d'autre chose, etc. Imam Zamakhshari, il dit, c'est ce qui embellit la sourate. Et c'est ce qui lui donne beaucoup plus de force quand elle traite plusieurs sujets dans différents versets. D'accord. Bien sûr, celui qui apprend aussi un chapitre ou une partie d'une sourate, ça va l'encourager à passer à autre chose. Contrairement, s'il y avait, c'est-à-dire, dans une sourate, il y avait un seul sujet, comme si tu ne peux pas le couper. D'accord. Non. Aussi que celui qui apprend, quand il apprend une partie, il comprendra un sujet. Il y a une certaine autonomie entre les versets de la sourate. D'accord. Alors, quelle est l'origine de cette chronologie des sourates et des versets dans le Coran? Tous les ulamas sont unanimes que cette chronologie, elle est ce qu'on appelle tawqifi. Tawqifi, c'est-à-dire, ça vient d'Allah. C'est-à-dire, c'est Allah qui a révélé à Sidna Jibril, qui a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que voilà cette chronologie, c'est pas l'être humain, c'est pas des ulamas qui ont dit, voilà, on choisit telle sourate après ta sourate. Non, non, non. C'est quelque chose qui est venu par révélation. D'accord ? Il n'y a pas d'ijtihad dedans. Vous avez compris ? Un peu. Non. C'est-à-dire les sahaba, en écrivant, vous savez que le prophète, quand il reçoit la révélation, il dicte aux sahaba qui écrivent, à chaque fois, tout dépend qui est à côté de lui ou à qui il est allé voir le prophète pour lui dicter. Il lui dicte et il lui dit que ces versets-là, il faut les mettre dans ta sourate après tel verset. Ou bien dans ta sourate, et ça sera le premier verset, c'est ceci ou cela. D'accord ? Non. Donc il n'y a pas de divergence entre les musulmans sur cette question-là. Comme l'a bien précisé Imam al-Baqlani, hein, que vous connaissez tous, un grand savant malikite ash'arite, rahimahullah ta'ala, et bien d'autres, hein, Suyuti, Zarkashi, etc. Alors, on a un hadith pour vous donner un exemple. Hein. On a des centaines d'exemples de hadith qui parlent de la chronologie Parce que, puisque c'est le prophète qui ordonne, donc c'est des hadiths, d'accord. C'est des hadiths, le prophète dit. Et les sahaba, ils mémorisent, le prophète a dit. Je donne un exemple. L'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte par une chaîne de transmission authentique, selon Uthman ibn Abi al-As, il dit « Kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam » Un sahabi qui dit j'étais assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, je l'ai vu et « Shakhasa bi basarihi thumma sawwaba » Je l'ai vu, il a levé l'œil en regardant quelque chose. Ensuite, il est revenu par son regard droit. D'accord. ثم قال. Ensuite, il a dit. أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع. L'ange Gabriel est venu me voir et il m'a ordonné de mettre tel verset dans tel endroit. Verset, il s'agit du verset إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. Donc que l'ange Gabriel, il est venu, donc ce sahabi nous rapporte qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'ange Gabriel est venu le voir, lui dire tel verset, mets-le dans tel endroit. Donc on a plein de hadiths qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a ordonné la chronologie des versets ou des sourates. Oh, des hadiths qu'on peut trouver partout dans sa, les livres de Sunan. Alors, sur la question de la chronologie, ça c'est pour la chronologie des versets, pour la chronologie des sourates, vous allez trouver quelques avis de ulama qui vont dire la chronologie des sourates, c'était par un ijtihad des sahaba. Cet avis existe. Mais l'avis le plus retenu, majoritaire, on va dire écrasante, hein, l'avis écrasant, majoritaire absolue, c'est que même la chronologie des sourates, c'était par tawqifi, c'était par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un ijtihad des sahaba. Non. Ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail de la divergence. L'essentiel, on sait que l'avis le plus retenu, la majorité, c'est cela. Non. Oui. On va parler d'un chapitre concernant les Asbab Nuzul. Les causes de la révélation. C'est une science importante dans la science. Asbab Nuzul, les causes de la révélation, c'est une science. Dans la science, une parmi des sciences du Coran. Celui qui fait l'exégèse, s'il ne connaît pas Asbab Nuzul, s'il ne connaît pas les causes de la révélation de chaque verset, il ne peut pas faire l'exégèse. Il faut qu'il c'est pour cela qu'il faut, minimum, il faut qu'il soit un hafid, qu'il connaisse 100 000 hadiths, minimum. Et il faut qu'il soit un connaisseur du Coran. Il se connaît tout le Coran par cœur. Différentes lectures, chaque verset, quand il a été révélé, pourquoi il a été révélé, à qui il a été révélé, et quel est le hukm qu'on peut tirer. Ensuite, ils vont diverger sur la compréhension, etc. Mais il ne peut pas y avoir quelqu'un qui fait l'ijtihad que l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, qui ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas tel verset qui a été révélé dans telle circonstance, il ne connaît pas les circonstances, etc., etc. Oui. On peut diverger sur les circonstances, les ulama, ils peuvent diverger, mais chacun il a son argument pour prouver que c'est dans telle circonstance. Hein? C'est ça. Parce que les circonstances sont rapportées par des hadiths. Donc on peut diverger sur les hadiths. Un, il le voit authentique, l'autre, bon, l'autre, il dit non, ce hadith-là veut dire ceci, cela, l'autre, il dit non, oui, ça, c'est relatif, et ça, c'est spécifique à ça, d'accord. Aïe, oui. Alors, parmi les Asbab al-Nuzul, vous allez trouver des versets qui parlent d'un sujet qui s'est passé. Donc les sourates, le verset parle de lui-même. C'est-à-dire, il parle d'une situation qui s'est passée. C'est-à-dire, d'un événement. Ce n'est pas un verset, il va parler de Ghazwat Badr, et on est à 10 ans de Ghazwat Badr. Non, ça s'est passé. Il traite de cette question-là. Parce qu'il y avait ce sujet-là. Parce qu'on a des versets qui parlent des choses qui sont d'ordre de l'histoire. D'accord ? Ça, c'est autre chose. Comme le fait qu'il y avait la révélation de « Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil » « Ne vois-tu pas ce que a fait ton Seigneur des gens de l'éléphant ?» Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil » Alam yaj'al ? C'est Kaydahum fi tadlil. Allah a fait que leur manigance, elle est partie dérisoire. « Wa arsala alayhim » Taïran, il leur a envoyé des oiseaux, Ababil. Ababil, c'est. Raja'alahum. Kasfin ma'koul. Alam tara kafa fa'ala rabbuka bi ashabi fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijarati min sijil faja'alahum kasfin ma'koul. Donc Allah parle des gens de l'éléphant qui sont venus. Allah leur a envoyé des oiseaux, qu'ils ont jeté des pierres sur eux, et ils se sont dispersés, les éléphants se sont frappés un contre l'autre, et l'armée s'est autodécimée. Alors, on ne peut pas dire que... Parce que quand est-ce que cette histoire s'est passée ? Elle s'est passée quand le prophète est né. C'est-à-dire la même année où le prophète il est né que cette histoire. Donc, on ne peut pas dire que cette sourate, c'est-à-dire, elle a été révélée quand elle s'est passée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de naître. Est-ce que vous avez compris? Donc, ça, elle est venue après, Allah Azza wa Jalla nous a. C'est 40 ans après, voire plus, que quand il y a eu cette révélation pour nous parler de quelque chose d'histoire qui s'est passé. Est-ce que vous avez compris? Non. Parce que on peut trouver des gens qui disent ça. Alors, on ne peut pas dire que tous les versets ont été révélés pour des causes. Donc, il y a des versets qui ont été révélés pour des causes, pour des circonstances qui se sont passées. Il y a d'autres qui ont été révélés parce que Allah veut nous informer des choses. Ou parce que Allah a voulu nous dire des choses. Pas forcément pour nous parler des choses qui sont passées. D'accord ?
Des informations.
Voilà, comme l'histoire des prophètes. L'histoire du prophète, Allah fait des révélations pour nous parler, ou des communautés qui nous ont précédés. Non. Ou bien des choses qui se sont passées, mais anciennes, comme l'histoire des éléphants. Ou bien Allah va nous informer des choses qui vont se passer. La question des Romains, la guerre des Romains et des Romains, des Byzantins et des Perses, Allah nous informe que c'est-à-dire c'est-à-dire Rolibatorum, c'est-à-dire les Romains, ils ont été vaincus, mais ils vont vaincre. D'accord ? On ne peut pas dire que c'est la circonstance. Bien sûr, on peut dire que c'est la circonstance de leur défaite, mais ce n'est pas la circonstance qu'ils vont gagner. Mais ils vont gagner. Ils ont gagné après une année. C'est-à-dire, les Romains, ils ont gagné après une année. Donc, c'est la circonstance de leur défaite, oui, mais on ne peut pas dire que c'est la. C'est-à-dire, il a devancé l'événement. Ou bien les questions de Qiyama. Allah, quand on y parle, il nous parle de la fin du monde, Qiyama, de ce qui va se passer en enfer, etc. Alors, on ne peut pas dire que ce n'est pas encore Qiyama, ce n'est pas les causes. Ou bien du paradis de l'enfer. D'accord ? Oui. Alors, quel est l'intérêt de connaître la science des causes de la révélation ? Premièrement, pour comprendre la portée du verset. Qu'est-ce que Allah veut nous faire comprendre à travers ce verset? L'imam al-Wahidi nous dit on ne peut pas connaître l'exégèse d'un verset sans connaître la cause de sa révélation. L'imam Ibn Daqiq al-Aid, la même chose, il nous dit, l'imam Ibn Daqiq al-Aid nous dit aussi, le chemin de connaître les causes de la révélation d'un verset est un argument fort pour donner l'exégèse de ce verset. Parce que s'il y a divergence entre deux savants qui font l'exégèse d'un verset, un, il argumente son exégèse par une cause de la révélation. Et l'autre ne l'argumente pas. Il dit, il donne l'exégèse. Celui qui l'a donné avec les causes de la révélation, son argument est plus fort que l'autre. D'accord ? Deuxième intérêt, c'est connaître la sagesse qui est derrière cela. D'accord ? On comprend. Il y a, c'est-à-dire la sagesse qui est derrière. C'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à travers un verset au Coran al-Karim quand le verset du Coran de l'interdiction de la consommation de l'alcool est révélé, tous les sahabas sont allés prendre toutes les jarres, les sahabas et les autres, les tabi'in ou bien les gens qui étaient des gens de Médine, ils ont pris chaque personne qui avait un peu d'alcool dans sa maison, etc., ils ont cassé toutes les jarres, ils ont complètement dans les rues de Médine, il y avait tout l'alcool, il coule. C'est-à-dire, dès qu'Allah Azza wa Jal, il a interdit, directement se sont abstenus. C'est-à-dire, pour que nous, c'est de faire comme ils ont fait les Sahaba. Le verset, il est venu, ils ont fait ceci, cela. Nous, la sagesse, c'est de faire comme eux. C'est-à-dire, puisqu'il y a l'interdiction, ça y est, c'est interdit, on devrait interdire l'alcool. C'est-à-dire, c'est interdit, c'est interdit. Il n'y a pas de philosophie là-dedans. On doit faire comme les Sahaba. Alors, parmi les choses bénéfiques de connaître les circonstances, c'est-à-dire quel est l'intérêt de connaître Sbab Nuzul, les causes de la révélation, si jamais il y a une ambiguïté dans la compréhension d'un texte. S'il y a une ambiguïté dans la compréhension du texte, les causes de la révélation facilitent la compréhension. Alors, aussi, on a le contexte linguistique qui est fort. C'est-à-dire, on connaît une cause, on connaît une circonstance. On connaît une circonstance, une cause d'une révélation du Coran al-Karim. Voilà, il a été révélé pour cette chose. Ensuite, quand on voit les versets, comment ils ont traité cette question-là qui s'est passée, mais ils ne l'ont pas traité d'une façon. Ensuite, l'autre, il est venu, il lui a dit, bon, barakallahu fik, il est parti. Non, ce n'était pas comme ça. Il est traité d'une façon linguistique forte. Les mots, ils sont trop forts. Et ça rime. Et linguistiquement parlant, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très fort. Très, très cohérent. On trouve c'est-à-dire la grandeur de la langue arabe dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est pas évident de traiter une histoire, de traiter une circonstance, de traiter quelque chose, d'avertir, ou bien de recommander, ou bien de rendre obligatoire, mais dans un langage d'arabe fort, cohérent, et non seulement ça, mais qui défie. Il va traiter de la chose, il va traiter d'une façon, on va dire, forte linguistiquement parlant. Est-ce que vous avez compris ? Ce qui donne de la force et la grandeur pour le Coran Karim, quand on connaît les causes. Alors maintenant, comment on connaît les causes de la révélation ? Alors, l'imam al-Wahidi, il nous dit les circonstances d'un verset ne peuvent être connues qu'à travers les riwayats, les chaînes de transmission, de soit de ceux qui ont assisté ou bien de ceux qui ont su ou appris que telle chose s'est révélée, et voilà ce verset-là, il a été dit pour telle chose. Soit des gens qui ont vu, qui ont vécu, ou bien de ceux qui ont fait un effort de recherche pour savoir pourquoi tel verset il a été révélé et quand. Alors, les ulama du salaf, ils ont dit que cela, il faut qu'il soit rapporté par les sahaba ou les tabi'in. C'est-à-dire, ici, c'est pour cela que vous allez voir chez At-Tabari, vous allez voir chez Ibn Kathir, surtout de ce qu'on appelle At-Tafsir bil-Ma'for, le tafsir à travers, c'est-à-dire le tafsir du Coran à travers des hadiths. Donc At-Tabari, il va te ramener plein de hadiths sur un seul verset. Des chaînes de transmission. At-Tabari ou bien Ibn Kathir ou bien Suyuti dans son tafsir aussi. Non. Donc on trouvera ce genre de hadith qui parle des causes de la révélation dans les ouvrages de hadith comme le Bukhari, comme Muslim, et dans les autres ouvrages aussi de hadith. Hein. Bien sûr, ce qui a été rapporté par le sahabi, des circonstances, des causes de révélation, n'a pas le même degré de celui qui est rapporté par un tabiri. Un tabiri, c'est un élève de sahabi, c'est-à-dire celui, c'est le compagnon. Il passe en priorité. C'est-à-dire, si on a un seul verset et on a deux versions, la version rapportée par le sahabi, on a l'autre version rapportée par le tabi'i, celle du sahabi qui passe avant. D'accord ? Wa mursalun minha sahabi yusaqat. Ça devient un hadith mursal, c'est-à-dire, il manque un maillon dans la chaîne de transmission, c'est le sahabi. Et ça s'appelle le mursal. Et ça, quand même. Ça discrédite pas, mais ça a moins de valeur que si le sahabi, c'est lui qui a rapporté. Non.
Non. Question par rapport au verset, au niveau d'authenticité des versets, est-ce que c'est rapporté par chaîne de transmission pour authentifier un verset, ou c'est juste par rapport au manuscrit le plus ancien qu'on a?
Non, ils ont été rapportés par des chaînes de transmission notoires, c'est-à-dire notoires, c'est-à-dire que un nombre hyper important, un nombre hyper important.
Donc on se réfère à la même pratique que pour le hadith, pour authentifier les versets.
Oui, c'est la même chose.
Ceux qui remettent en question le hadith. Le coranisme.
Tout à fait. Tout
la
à
même
fait.
Chose, on peut,
tout
on
à
peut
fait. C'est la même, exactement. C'est-à-dire cette critique, elle est faite pour eux parce que les mêmes chaînes de transmission qui ont rapporté le Coran, ce sont les mêmes chaînes de transmission qui ont rapporté le hadith. Donc on accepte cela ou on n'accepte pas cela. La critique, elle est faite exactement. Tu as raison sur ce point. Non. Là, ici. Alors, il ne faut pas mélanger cause de la révélation avec sujet de la révélation. C'est-à-dire, vous avez, il va dire, ah oui, ce verset-là, il a été révélé pour telle chose. C'est-à-dire, pour telle chose. Il y a une différence. Ah, ce verset-là, il a été révélé, par, il traite de l'alcool. Ça, ce n'est pas parler de cause. Les causes, c'est que voilà ce qui s'est passé, hop, il y a eu cette révélation. Donc les koufaris sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, je vous ai raconté, hein, je vais te donner un exemple, celui qui est venu voir, je vais vous le donner rapidement, Ubay ibn Khalaf, un des têtes de la mécréance à l'époque du prophète, Ubay ibn Khalaf, c'est lui qui est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dans sa main, donc, c'est Ibn Kathir hein, qui rapporte ça dans son tafsir. Il dit, il est venu, la tête de la mécréance, il avait dans sa main un os qu'il a ramené dans un cimetière ancien. Il est parti dans un cimetière très ancien. Il n'a pas ramené n'importe quel os, il a ramené exprès un os très, 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 très ancien. Arrivé devant le prophète, il l'a frité avec ses mains. Il y a de la poussière qui est tombée. C'est ce que vous avez compris. Et Anil Ulama disent, « Oyufetitou » Et ensuite, il le fait comme ça. C'est-à-dire, non seulement il le fait comme ça, c'est-à-dire, c'est de la poussière, regarde. Ensuite, il lui dit, « Ya Muhammad, oh Muhammad, atazumu anna Allah yib'athu hadha ?» Il dit, « Tu penses vraiment qu'Allah va faire ramener cette poussière qui part ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, « Oui. » Le prophète, il lui dit, à Ubay ibn Khalaf, qui était vivant, qui était devant le prophète, il lui dit, oui, il te fera mourir, il te fera revenir à la résurrection, et pour que tu partiras en enfer. Yumituka Allahu, thumma yab'athuka, thumma yahshuruka ila an-nar. Et une fois que le prophète a terminé ce verset, c'est-à-dire, il y a une révélation qui parle directement de cela. Allah lui a révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme ne voit-il pas, anna khalaqnahu, on l'a créé, min nutfa, on t'a créé de sperme, de rien du tout, tu rien du tout, fa idha huwa khasimul mubin, il devient un polémiqueur, tu étais rien du tout, tu étais un microscopique, et tu es maintenant grand, et tu viens polémiquer. C'est le Coran qui dit. خَلَقْنَا مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Il est debout, il est haut, machin, etc. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. Il nous a donné un exemple. C'est-à-dire, il a ramené l'eau, c'est ça. وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Il a donné un exemple, mais il a oublié lui comment il a été créé. C'est parce qu'il parle de cet os, comment il va venir. Il a oublié lui-même qui parle, d'où tu viens. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Il a dit, qui donnera la vie à cet os qui est complètement poussière. قل dis-lui يا رسول الله يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق العالم. Dis-lui que celui qui lui a donné vie, c'est celui qui lui a donné vie la première fois. وهو بكل خلق العالم. Il connaît toutes choses car c'est le créateur de ces choses-là. الذي جعل لكم الشجر الأخضر شجر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Celui qui a créé les arbres etc. pour que vous chauffiez etc. Donc, vous remarquez que, c'est-à-dire les causes de ce verset, c'est clair, elles sont claires, elles sont argumentées chez Ibn Kathir, et d'autres aussi, qu'ils ont été révélés parce que, c'est-à-dire si quelqu'un veut nous dire, ça parle de quoi, pourquoi ça parle de haut, toi, l'être humain, etc., c'est une réponse, ils ont été révélés pour une circonstance qui est qu'on a connue, etc., etc. Vous avez compris? Alors, il y a des fois des divergences entre les riwayats. Les riwayats, c'est-à-dire des divergences entre ce qui a été rapporté sur des circonstances. Un, il dit, voilà la chaîne de transmission, j'ai une chaîne de transmission, que la cause de ce verset-là, c'est telle chose. Un autre, il va dire, non, moi j'ai entendu tel dire que ça a été révélé pour telle chose. Et là, c'est le savant qui va voir le pourquoi du comment. Est-ce que vous avez compris? C'est là le ilm. C'est là la science. C'est la grandeur de ce savant de tafsir. Et ce savant, que ce soit l'imam Malik, Shafi'i, etc. Il va voir, premièrement, l'étude de ces chaînes, qui est les plus fiables, qui est la plus crédible, etc. Et non seulement on va étudier les chaînes, on va étudier aussi, c'est-à-dire le contenu. Il y a la chaîne de transmission, ensuite il y a le texte. Ah, d'accord. Ah. Donc on va étudier l'authenticité de la riwaya, la faiblesse de la riwaya. Est-ce que la chaîne de transmission, elle tient la route? Est-ce qu'elle est coupée? Etc. Alors, une chaîne peut être faible pour plusieurs causes. Peut-être le rapporteur, il s'est trompé. Et au lieu de... Parce que dans une chaîne de transmission, on a plusieurs rapporteurs. C'est vrai ou non? C'est un des rapporteurs au milieu qui a oublié, ou il a fait faute, ou il n'a pas mémorisé que cette chaîne ne parle pas de ce verset, parle d'un autre. Donc l'erreur, elle n'est pas chez trois ou quatre rapporteurs, mais elle est chez un des rapporteurs qui a fait une erreur. Au lieu de l'incomber à tel verset, il l'incombe à un autre. Ça peut exister, d'accord? Ou bien il est réticent. Et il dit, je pense que d'après Kala, il n'est pas sûr de lui-même. Ça affaiblit la riwaya. D'accord? Ou bien il nous rapporte une riwaya qui est complètement en opposé d'autres qu'on connaît qui sont très 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 forts dans le rapport des riwayas. D'accord? On a des rapporteurs, ils sont fiables, ils ont ramené quelque chose d'authentique, qui sont état 1, il n'est pas fiable. Bon, il mémorise moins, et en plus, il a contredit, ça affaiblit sa riwaya. Là. On va donner un exemple. Alors, le verset... ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. Ça, c'est les... Il est bien ce verset pour les salafis. C'est pour Allah l'Orient et c'est-à-dire l'Est et l'Ouest, le Mashriq et le Maghrib. D'accord. C'est-à-dire où se lève le soleil et où se couche. Tout appartient à Allah. فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله. Où que vous vous dirigez, là est la face d'Allah. On est bien d'accord? Très bien. Ça, c'est une sourate de la vache, verset 115. Alors, cette sourate, elle est connue qu'elle traite de la prière. De la prière surrogatoire concernant celui qui est sur un chameau ou de toute façon sur quelque chose qu'il n'est pas sur terre, son chameau il marche, d'accord. Alors l'imam muslim nous rapporte selon Ibn Omar, c'est qui Ibn Omar?
Le fils de
Abdullah, d'accord. Parce que sinon, Omar Khattab, il a 10 qu'on dit Ibn Omar, le fils de Omar. Omar, il a 10, lequel? Donc, il y a le plus connu, Abdullah, c'est Ibn Omar. D'accord? Il dit, « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madina ala rahilati haythu kana wajhuh. Qala wa fihi nazalat fain. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait sur le chameau, wa muqbil de la Mecque vers Médine, il était sur ce chameau-là. Allah lui a révélé le prophète a reçu cette révélation parce que le chameau il marchait et lui il prie. Alors on a un hadith, ça c'est le hadith rapporté par l'imam muslim. On a un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi Mais il le rapporte lui-même, il l'affaiblit. Si on suit les salafis d'aujourd'hui, pour eux, tous les hadiths faibles, il faut les brûler. Mais les ulama, ils ont dit, c'est un hadith faible, mais il faut le garder. Ce n'est pas parce qu'il est faible que le prophète ne l'a pas dit. Même les hadiths fabriqués, ils les ont rassemblés, ils les ont mis dans des livres. Pour dire attention, c'est des fabriqués, on les connaît. Alors, il y a un autre hadith, c'est-à-dire le même verset, le hadith par Tirmidhi, il dit qu'elle a été révélée. Il y a un hadith qui dit, c'est-à-dire les causes de ce verset concernent celui qui a prié dans une direction de la Qibla et qu'il a fait l'effort de chercher la Qibla et au final il s'est trompé, il a fait l'effort. Après avoir fait l'effort, il a cru que c'était dans cette direction. Ensuite, il s'est trompé. Et après qu'il a terminé la prière, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé et que sa prière, elle est valable. Donc, pour ce cas, ce hadith-là nous dit que ce verset, il a été révélé pour ça. D'accord ? Donc, on a deux versions qui expliquent la cause de la révélation. Et celle qui est plus crédible, celle de l'imam muslim, parce que le hadith dans l'imam muslim, il est authentique. Et la riwaya de l'imam Tirmidhi, elle est faible. Et qui l'affaiblit ? Celui-même qui la rapporte. Il dit, elle est faible. L'imam Tirmidhi. Est-ce que vous avez compris ? Donc, à partir de là, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, on connaît la cause des circonstances. Alors, on a aussi plusieurs choses qui se passent, ou bien plusieurs choses qui se passent, mais le verset va traiter en même temps de toutes ces choses-là. D'accord ? Ou bien, c'est des choses qui sont passées, c'est-à-dire il va parler de une polémique sur un sujet, hier on a dit, etc. Pour la question de Sayyida Aïcha, par exemple, on a parlé d'elle, etc., ça s'est passé, etc. Donc, on a un verset qui va parler de plusieurs choses en même temps. D'accord ? Oui. On a des exemples. L'imam al-Bukhari nous rapporte l'ayat al-li'an. Vous savez c'est quoi l'li'an? L'li'an, c'est quand un mari accuse sa femme. Accuse sa femme de tromperie, etc. Il n'y a pas la question ici de rappeler les témoins, etc. Donc lui, il va jurer 5 fois et qu'il dit que je sois maudit par Allah si je dis faux. Et elle jure 5 fois qu'elle dit qu'Allah, radiballahu alayha, qu'Allah soit, c'est-à-dire en colère contre elle si elle dit mensonge. Alors, regardez, l'homme il dit sur lui-même qu'il sera maudit, mais sur la femme, c'est-à-dire le verset ne dit pas qu'Allah l'a maudit. D'accord, c'est très important. Qu'Allah soit en colère. D'accord, qu'Allah soit en colère. Alors. Pourquoi elle a été révélée ? C'est-à-dire, quelles sont les causes ? Alors, dans Sahih Bukhari Muslim, il est dit qu'elle a été révélée sur Uwaymar al-Ajlani, qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Rajul. Il lui a dit, « Ya Rasulallah, un homme, il trouve sa femme avec un autre homme. » C'est-à-dire, il la trouve dans... C'est pas qu'il la trouve en train de lui parler, hein, c'est-à-dire, il la trouve en train de le tromper. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé du Coran en ce qui te concerne, toi et cette femme. Donc, Ça, c'est une. On sait que ici. Non. Non. Donc, l'imam Bukhari. Attendez. Pardonnez-moi. L'imam al-Bukhari, il a deux versions. L'imam al-Bukhari, il a deux versions pour donner les causes de cette sourate. Il a la version où il est d'accord avec l'imam Muslim. Ils sont tous les deux d'accord sur que le fait a été révélé sur ce sahabi, il s'appelle Uwaymar al-Ajlani, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà, il y a une révélation qui te concerne. Il lui a donné la sourate. Deuxième version, c'est celle qui est spécifique au Bukhari, que le musulman n'a pas ramené, où il dit, elle a été révélée sur un autre qui s'appelle Hilal ibn Umayya, quand il a accusé sa femme. Donc le Bukhari nous dit, le Bukhari lui-même, il ramène deux choses authentiques. Le Bukhari lui-même rapporte, parce qu'ils sont, lui, et le Bukhari c'est quoi? Le Bukhari étudie les chaînes de transmission. Le hadith il est authentique, il le rapporte. Il a rapporté que cette sourate, sa cause, c'est ça. Pour lui, ils sont authentiques. Tu ne lui vas pas dire, ah non, ça, non, c'est pas normal, je vais prendre là. Non, non, authentique, je ramène tous les deux. Ensuite, c'est le rôle des savants commentateurs du hadith, des savants spécialistes de commentaires du hadith, des savants, les fuqaha, pour nous dire le pourquoi du comment. Imam al-Nawawi, il vient, il nous dit. Les deux hadiths, ils sont authentiques. Il dit, cette situation, au début, il y a une chose qui s'est passée avec Hilal ibn Umayya. Et comme par hasard, juste après, pas longtemps, juste après, Uwaymar est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous les deux, parce qu'elle a été révélée sur Hilal, et en même temps, l'autre sahabi, il est venu poser la question, le professeur Smiwa, il dit, toi aussi tu rentres. Mais il ne lui a pas dit, voilà, l'autre... Il... Donc tous les deux, c'est-à-dire, cette révélation, elle touche tous les deux. Tous les deux sont valables, est-ce que vous avez compris? Ça répond aussi à la fille, qu'ils disent la vérité, elle est une, elle est indivisible. La vérité n'est pas une indivisible. Le haqq, c'est Allah, il est l'unique. Mais la vérité chez les hommes, elle peut être la vérité partout. Deux, trois, quatre, tous ils ont la vérité. S'ils sont basés sur quelque chose de scientifique, si ce sont des ulama qui parlent, amma c'est des juhel, le jahil, l'ignorant, il porte un péché, même s'il fait une fatwa qui le ramène juste. Il porte un péché, les ulama ils ont dit ça. Ils ont dit, l'ignorant, s'il répond à une question, et que cette question, elle est fausse, il porte un péché. Doublement. Et mais s'il a raison, il n'a pas de hasanat. Il porte un ith, ce qu'il n'a pas le droit. Non. Idan. وبذلك قال الإمام الخطيب قال لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. الإمام الخطيب, le khatib al-Baghdadi, il a dit, il dit que les deux, ils ont eu la même circonstance dans un même temps. Alors, l'imam Zarkashi, rahimahullah, il dit, c'est possible que on a le même verset, mais il est révélé deux fois. Il a été révélé. Ensuite, il y a le même verset. Il a été révélé pour une circonstance. Ensuite, c'est le même verset. Il va être révélé une deuxième fois pour une autre circonstance. Mais c'est le même verset qui existe dans le même endroit. Il a été révélé deux fois. On peut avoir deux chaînes. Est-ce que vous avez compris? On a l'exemple de Sahih, hadith dans le Sahihain, selon Abdullah ibn Mas'ud. On te demande c'est quoi l'âme. D'accord. Anna nazalat lamma sa'ala al-yahoud, donc des juifs sont venus poser la question, apparemment c'est des rabbins, sont venus voir poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur qu'est-ce que c'est que là. Quand il était à Médine. Par contre, on sait que cette sourate, elle a été révélée contre le prophète quand il a fait Mecca. Car les mouchriquines, les mécréants de la Mecque, qui n'étaient pas des croyants, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont posé des questions sur Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn, on dit que c'est Alexandre le Grand, on dit qu'on ne sait pas. Mais l'essentiel du Coran, il lui donne le nom de Dhul-Qarnayn. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ Dhul-Qarnayn. C'est-à-dire dans Sourate la Caverne, Sourate le Kaf. D'accord. C'était fait Mecca. Et on dit que ce sont les Juifs de Médine qui ont dit aux mécréants de la Mecque de poser cette question-là sur Dhul-Qarnayn, parce que les Juifs les mécréants de Mecca, ils ne connaissent pas l'histoire des prophètes, etc. S'il est vraiment prophète, posez-lui la question de Dhul-Qarnayn, est-ce qu'il connaît ? Parce que du moment où il habite dans le désert, il ne connaît pas l'histoire, il n'a pas étudié les religions. S'il est vraiment prophète, il va lui répondre, c'est qui Dhul-Qarnayn ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, on a l'histoire de Dhul-Qarnayn révélé en détail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le répond d'une façon détaillée et il le Coran ne s'arrête pas à Dhul-Qarnayn. Donc, il y a aussi la révélation de « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّحِ ». C'est-à-dire, non seulement il parle de Dhul-Qarnayn, il le rajoute et on te pose la question sur Ar-Ruh. D'accord ? C'est une question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir quand il va partir à Médine. Vous avez compris. Alors, les ulémas disent, il faut pas poser la question de dire, c'est-à-dire, là, on a cette réponse du prophète aux gens de Mecca, des koufars de Quraysh. Et quand le prophète est parti à Médine, les juifs, ils sont venus lui poser la question sur l'âme. Or, la révélation, elle était déjà là. Le prophète leur a ramené, c'est-à-dire, il a reçu une autre révélation du même verset, du même endroit, pour dire, voilà ce que tu vas leur dire. La chose qui était déjà dite, tu vas la redire. Donc là, il va parler que de l'âme, il ne va pas parler d'Alexandre le Grand. D'accord. Vous avez compris ? Bon. On va s'arrêter, on... On rajoute un peu. Ouais. Vite fait, je termine pour que la prochaine fois, ce sera entre les sourates de Mecca et les sourates de Médina. Une question de Osol Fekh. Alors, la question de Osol Fekh, vous savez très bien qu'il y a Umum al-Lafd wa Khusus al-Sabab. C'est-à-dire, vous avez le Umum al-Lafd, c'est-à-dire vous avez le texte, il est général, mais la question traitée, elle est spécifique. On va donner des exemples. Alors, on sait très bien que la sourate Sourat al-Layl wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Celui qui est venu donner son argent, son bien, fi sabilillah, il sera épargné de l'enfer. On sait très bien que cette sourate, par consensus, elle a été révélée sur Sayyiduna Abu Bakr Siddiq. Parce que juste après, wa sayyidun bi khaladi wa sayyidun bi khaladi yu'ti ma la wa tazkum inna akramakum 'inda Allah itqakum Donc, Sayyidina yani, l'imam al-Razi, rahimahullah, il a relié deux versets. Le verset qui parle de Sayyidina Abou Bakr Siddiq, quand il a... Parce que, alors, à un moment donné, le prophète il a dit, qui peut donner aux musulmans, ils n'ont plus rien à manger, etc. Sayyidina Abou Bakr Siddiq, il a tout donné. Sayyidina Omar Bakr, quand il est venu, il a dit, Rasulallah, moi je donne la moitié de tout ce que je possède. Il dit, est-ce que je peux savoir, Abou Bakr Siddiq, il a donné combien? Parce que toujours, il a confiance dans les bonnes actions. Et il lui a dit, Abou Bakr Siddiq, il a donné tout ce qu'il possède. Et il a dit, j'ai compris ce jour-là que j'arriverai jamais à... J'atteindrai jamais. Et il disait, j'aurais souhaité être un poil dans la poitrine de Abou Bakr Siddiq. Abou Omar Bakr Siddiq. Il dit, je serai... Et c'est pour ça que le professeur Asmi dit, si la foi de toute la Oumma serait dans une kafa, la mizan, la balance, d'un côté de la balance, et de l'autre côté, on fait tout, la foi de Abou Bakr Siddiq, c'est Abou Bakr Siddiq, radhiyallahu anhu, c'est de la foi, qui va peser lourd que toute la foi de toute la Oumma. Vous imaginez? Donc, c'est Abou Bakr Siddiq. Alors, l'imam Fakhr al-Razi, il dit, justement, il y a un verset où Allah dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum. Celui, regardez, hein, Razi. Celui, akramakum, le plus généreux pour Allah, c'est celui le plus pieux. Et c'est qui le plus généreux? Qui a tout donné? C'est Abou Bakr Siddiq. À partir de là, il dit, c'est lui qui mérite être khalifa avant tout le monde. Razi. Il rigole pas. Parce qu'il a démarré du verset. Le verset parle de Abou Bakr Siddiq, c'est lui qui va être épargné, c'est lui qui a ramené tout son argent. En même temps, Allah Azza wa Jalla nous dit, le plus, qui a plus de crainte, plus, le meilleur parmi vous, c'est celui qui a tout donné. Et qui a tout donné en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam par reconnaissance d'un mortal, c'est Abou Bakr Siddiq. Donc, c'est le plus pieux. Donc, c'est lui qui mérite le plus pieux, qui est plus... Parce que c'est une argumentation de l'imam, des ulama, ils ne voient pas les versets comme nous, on les voit. Radiyallahu ta'ala. Ala anna Abu Bakr afdalu an-nas ba'da Rasulillah. C'est une preuve qu'il dit que c'est les meilleures personnes. Parce qu'ils nous reprochent, ils nous disent, vous lisez le Jawhara, afdalu al-khalqi ala al-itlaq, nabiyuna famil al-shiqaq, vous lisez dans le Tawhid que le meilleur des créatures, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Les prophètes ensuite, Abu Bakr. D'où vous ramenez ça? Ah! Le Fakhr al-Razi, il rigole pas. Il te ramène argument après argument. Mais il faut avoir du ilm. Alors, quant aux personnes qui ont cru que ce verset-là, c'est général, il n'y a pas de sirat al-umum, c'est-à-dire les signes de généralité, elle et la raison. Donc, tout le monde sait que dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est un cas général pour toute personne. Qu'il suffit que tu donnes de l'argent de ta zakat, ça y est, tu es épargné de l'enfer. Non. C'est-à-dire, elle, ça s'appelle en arabe, al-ta'rif. C'est-à-dire, al-ta'rif, c'est-à-dire elle qui est définie. Le, c'est comme si tu dis le, la chose. Elle ici veut parler d'Abou Bakr Siddiq.
Donc il est spécifique à
ça. Il est spécifique à ça. Donc là, il y a une spécificité dans le verset. Il n'a pas dit, non, elle atqa. Le kala. Le kala. C'est-à-dire, ça parle de quelqu'un spécifique. Exactement.
Mais donc, c'est-à-dire que ce verset-là, on ne peut pas On peut pas
lire et dire que, parce que sinon ça aurait été وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, c'est-à-dire toute personne qui donne sa zakat, donc il va épargner de l'enfer. Non, ça parle de quelqu'un qui a donné tout son argent, parce que je vais dire, écoutez, je vais donner aujourd'hui tout mon argent, Ensuite, je fais ce que je veux. Je serai généreux par là. Ça parle de quelqu'un spécifique. D'accord ? Comme ça peut, on a aussi des circonstances où la chose, elle est spécifique sur une personne, mais le hukm, il est général sur toute chose. D'accord ? Dans le solfaire, ça, c'est des spécialistes au solfaire qui parlent. Donc, on a plusieurs versets qui ont été révélés sur des circonstances spécifiques, mais les ulama, ils ont tiré un commandement pour généraliser toute chose qui va se passer, ça va être comme ça. Comme le cas du verset, on a vu les questions du li'an, ça va être toute personne qui a un problème avec sa femme sur ce sujet-là, ça va être, il sera applicable sur lui. C'est-à-dire, ce verset-là, ce n'est pas parce qu'il a été révélé sur tel sahabi, il s'applique que sur lui. C'est une législation, c'est chéri'a. C'est Allah qui a fait la révélation pour cette cause, mais ça va être la règle pour tous les musulmans. À chaque fois qu'il y a ce problème, il va être appliqué. Là. Alors, les meilleurs ouvrages qui ont traité ces questions de... les meilleurs ouvrages qui ont traité c'est les causes de la révélation... On en a pas mal. Vous avez tous les ouvrages qu'on appelle tafsir bil ma'thour. Tafsir bil ma'thour, vous avez le tafsir du Coran Karim. Il y a plusieurs genres de tafsir. Une des catégories de tafsir bil ma'thour, c'est-à-dire le tafsir à partir des hadiths. Vous avez des hadiths qui traitent un verset. Vous allez trouver chez Suyuti, vous allez trouver chez Ibn Kathir, vous allez trouver chez Tabari. D'accord ? On trouve des ulama qui se base dans l'exégèse d'un verset à partir d'un ensemble de hadiths. Alors, mais chaque savant, il a sa méthodologie. Je vois des frères, ils vont voir, par exemple, l'imam Tabari, ils veulent comprendre qu'est-ce que l'imam Tabari a dit dans l'exégèse d'un verset. Ils ne savent pas que l'imam Tabari, il faut que si tu n'as pas lu Tabari avec un cheikh, tu ne comprendras pas. L'imam Tabari, quand il a écrit son livre, il a enseigné à ses élèves. L'imam Bukhari, quand il a écrit son sahih, il a enseigné à ses élèves. L'imam Muslim, la même chose. Tous les ulamas, l'imam Mal, quand il a enseigné le Muwatta, il a enseigné à ses élèves. La science, c'est sa parcelle de transmission. Le Muwatta, ce sont les élèves de l'imam Mal qui l'ont compris. De l'imam Mal, le pourquoi du comment et des choses qu'ils peuvent tirer de ce qu'ils ont entendu. La même chose de eux, comment ils ont transmis ça à leurs élèves et les élèves des élèves jusqu'à aujourd'hui. Et la même chose dans la science de la croyance. L'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il a fait? L'imam Abu Mansour al-Maturidi. Donc la science, c'est par transmission. L'imam Tabari, si tu prends un verset, tu vas te perdre. Tu vas trouver 200, 300 pages. Il n'arrête pas de ramener les avis. Tu vas te dire, ah tiens, ah c'est ça l'avis de l'imam Tabari. Là, l'imam Tabari, il a une méthodologie. Il va ramener tous les avis. Et à la fin, il te donne son avis. Des fois, tu vas lire, tu vas dire, ah tiens, il a dit ceci, cela. Et beaucoup de salafistes sont tombés dans ce piège-là en croyant que, en rapportant, Imam Tabari, en rapportant des paroles ou des hadiths ou des avis, il croit que c'est sa position à lui. Sa position à lui, tu vas la lire à la fin et il a une façon comment montrer son avis à lui. La même chose pour le Qurtubi. J'ai écrit un texte sur la question de... Et ensuite, il faut comprendre la terminologie de Al-Qurtubi, la terminologie de Tabari. Il a un terme spécifique à lui. Et même quand il dit « la yu'jibuni », il ne me plaît pas. Est-ce que ça veut dire qu'il le déconseille? Est-ce qu'il veut dire qu'il l'interdit? Il faut qu'on revienne aux élèves de l'imam Malik, les élèves des élèves. Donc chacun, quand il lit un livre, il faut qu'il le lit avec un cheikh, qu'il l'a lu avec un cheikh jusqu'à... il faut connaître. Si tu n'as pas lu l'introduction du Mukhtasar Khalil, tu ne peux pas comprendre la terminologie de l'imam Khalil dans son Mukhtasar. Alors, parmi les ouvrages qui ont été écrits dans ce sens, alors, on a... l'imam Ali ibn Abdillah al-Madini. L'imam ibn al-Madini, c'est un des chouyoukh de Al-Bukhari. Et c'est un grand spécialiste dans le Jarh wa Ta'dil. C'est-à-dire, il dit tel, il est fiable, tel, il n'est pas fiable. Un des chouyoukh d'Al-Bukhari, qui est mort en 234. C'est le premier qui a écrit sur les Asbab al-Nuzul. Ensuite, on a après lui beaucoup de livres qui ont été écrits. On a Asbab al-Nuzul du Imam Al-Wahidi. Imam Al-Wahidi, c'est un spécialiste de l'exégèse et c'est un spécialiste de la grammaire. D'accord ? Il est de Nishapur. Il est mort en 427. Donc il rapporte par ses chaînes, à lui, ses chaînes de transmission. Alors, Imam Al-Wahidi, bien sûr qu'il a ramené plein de l'exégèse de plein, c'est-à-dire, il a parlé des causes de plein de versets par des hadiths, mais il a rapporté des causes sans chaîne de transmission. D'où il a été critiqué sur cette question. Maintenant, c'est possible qu'il l'a entendu de ses chouyours, c'est possible que c'est cela. Mais pas de chaîne de transmission, la crédibilité de la chaîne de transmission, elle tombe. Mais on la garde. On va la rapporter, comme disent les ulama, l'istinès, pour dire, tiens, tel aussi, il en a parlé. Si on trouve quelque chose qui est rapporté par chaîne de transmission, et on dit, c'est la même chose que tel, il a parlé. Donc, ça concorde. Mais pas en tant qu'argument, on va dire, solide. On a aussi l'ouvrage de l'imam Suyuti. Suyuti, rahimahullah, qui est mort en 911 de l'Égypte, c'est une sommité incontournable. Beaucoup de gens ne savent pas la valeur, ni ils ont lu, ni connaissent Suyuti. Il a écrit plus de 500 livres dans tous les domaines qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé comme science. Son ouvrage s'appelle « L'Ubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul ». L'imam Suyuti, dans cet ouvrage-là, parce que s'il rapporte toutes les chaînes de transmission, ça sera trop difficile pour celui qui va lire. Selon tel, il dit directement, ce hadith-là, c'est le Bukhari qui l'a ramené. Ce hadith-là, c'est Tirmidhi qui l'a ramené. Il ramène le Tkharij. Ça s'appelle le Tkharij. Donc, il te ramène la sourate, il te ramène le hadith qui traite du verset, et il te dit, il a été rapporté par tel. Sinon, lui, il a ses chaînes de transmission de ces ouvrages-là. Ce que vous avez compris. Ça, c'est la méthode de l'imam As-Suyuti. Alors, pour de ce qui est Tafsir Ibn Kathir ou bien l'ouvrage de Suyuti, on va... Ibn Kathir aussi, hein, Ibn Kathir est très intéressant parce qu'il ramène. Mais attention, ce n'est pas toutes les sourates que Ibn Kathir il va nous ramener, chaque sourate, les causes de la révélation avec des hadiths. D'accord ? Il se peut qu'il va raconter, comme a fait le Wahidi, donc l'imam Al-Wahidi, il dit que la cause de ceci, cela, de tel verset, c'est ce qui s'est passé dans tel. Mais on a lui-même, des fois, il ramène avec des chaînes de transmission, mais des fois, il ne ramène pas. Chose qui est aussi chez l'imam Ibn Kathir et qui est aussi, des fois, un de l'imam Suyuti. Par contre, l'imam Tabari, en général, toutes les sourates, il lui ramène avec des chaînes de transmission. Ce qu'il faut retenir aussi, que les autres mufassirines aussi ramènent cela par les chaînes de transmission de leur chouyour, du tafsir qu'ils ont appris. Ce tafsir-là, ils l'ont appris d'un cheikh à un cheikh à un cheikh jusqu'au professeur. Ils ne ramènent rien de leur tête. Est-ce que vous avez compris ? Tawakaf, inshallah, huna. La prochaine fois, nous allons continuer la science du Mekki et du Madani. Donc, chaque... la révélation mécoise et la révélation médinoise. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salam wa salam wa alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Normalement, samedi. Normalement. Mais s'il y a quelque chose, vous m'excusez, parce que je l'ai fait dimanche parce qu'on avait un colloque hier. Et s'il y a quelque chose, je vous le dirai, Inch'Allah.